Dans la chambre de grand-mère, il y avait un gros dictionnaire où couraient des kangourous, des républiques et des poux. Et comme dans ces pages roses, on parlait pas de la chose, je m'en payais une tranche en reluquant ces feuilles blanches. J'y lisais des mots cochons, con, cul, bite et cornichon. À la page 620, il y avait même écrit vagin. C'était des mots sans photo, avec en prime l'écho. Pavillon, éléphant, fleur, les mots disaient leur couleur. Le soir, en tournant ces plages, l'oreille dans son coquillage, j'écoutais des bruits de mer dans le dico de grand-mère. Des papous, des coloquintes, des rois, des ornithorynques, le tibet et le charbon. Sa couverture sentait bon. Il n'y avait pas encore écrit ni le prénom de l'Algérie, ni même celui de Sarclos, ni Sida dans le dico. Quelque part, au verbe aimer, c'était un peu écorné. Entre écume et écureuil, j'y ai vu un trèfle à deux feuilles. Un soir, dans le vieux Larousse, sous les moustaches de Proust, j'ai trouvé un petit billet, tout jauni, tout gribouillé. C'était plein de fautes d'orthographe. Il y avait trois F à girafe. Pas d'apostrophe à je t'aime. Mais elle l'a aimé quand même, mon grand-père. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, ou quand vous le voulez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Pour lui, j'ai choisi une chanson que j'ai pas chantée mais que j'ai parlé pour débuter cet épisode. Une chanson d'Alain Leprest titrée « Le dico de grand-mère ». Dans ce dico rempli de cadeaux, il y a un début et puis il y a une fin, ses derniers mots. Le départ d'une grand-mère centenaire, le mot mort qu'on trouve généralement vers le milieu du dico. Un événement attendu mais odieux, laissant toute une famille à fleur de peau, à fleur d'aile. Dire au revoir à Juliette, dire au revoir à Charlotte, une épreuve que nous avons traversée au même moment, sans se connaître. Frère de deuil, grand maternel, moi et mon invité du jour, que je suis ravi et ému d'accueillir au micro de Radio G, Julien Sfer, un homme hybride, pharmacien et chanteur, dont le nouveau clip, Libanais, drôle et touchant comme lui, cumule à ce jour près de 200 000 vues sur YouTube. Bienvenue Julien et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour, bonjour.
Julien, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Ma grand-mère paternelle Juliette et ma grand-mère maternelle Najat.
Alors Juliette et Najat, toi comment tu les appelais ? C'était quoi leur surnom de grand-mère ?
Eh ben, c'est le même, en libanais on les appelle Teta, que ça soit du côté paternel ou du côté maternel. C'est qu'en français ça peut être mamie ou mémé, des choses comme ça. Mais nous en libanais c'était Teta.
Donc les deux c'était Teta.
Teta.
Alors on peut peut-être commencer par la grand-mère maternelle, Najat. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour commencer, à quoi elle ressemblait, son visage, son allure ?
Elle était très chic, très belle. Les deux prenaient beaucoup soin d'elle. Elle avait beaucoup de classe, Teta Najat. Elle était reconnue, et pour ça, beaucoup de classe, beaucoup de gentillesse et une cuisinière hors pair aussi au Sénégal, à Dakar plus précisément. Physiquement, tu voulais que je la décrive ?
Ouais. Peut-être qu'on se figure un petit peu son visage, ses cheveux.
Bah, c'était un peu le clone
comme
de
si
ma maman.
Comme si on avait une photo devant nous.
Et bah, si vous connaissez ma maman, c'était un petit peu son clone. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, mais c'est vrai que dans les magasins, j'ai ce souvenir-là quand elle venait me rendre visite en France, que parfois on les prenait pour des sœurs. Cheveux noirs, avec une teinture, mi-long, un nez un peu crochu, c'est vrai, je me souviens de son nez, assez fine, assez menu.
Un nez qui a du caractère.
Un nez qui a du caractère parce qu'elle en avait, et elle avait surtout parce que ce qui la définissait surtout, ce qui la rendait très originale, c'était son accent. Son accent, son grain de voix et son accent qui mélangeait libanais et sénégalais et français. C'était vraiment très singulier la manière dont elle pouvait parler et la manière dont elle nous parlait aussi, avec d'énormes intonations des montagnes russes en fonction de ses émotions, et les plus souvent de très belles émotions envers nous, d'amour avant tout. Et c'est vrai que ça tapait des aigus que j'arrive jamais à faire, moi, vraiment, quand je veux l'imiter.
Tu essayes de l'imiter, tu as voulu l'imiter.
Oui, on a voulu l'imiter, évidemment, et avec mes cousins de ce côté-là de la famille. Et c'est toujours des trucs qui vont tellement haut. C'est vraiment... Je suis sur en studio d'enregistrement, je mets l'octave tellement je dois taper une note bien plus haute que celle-ci. Mais, et ce qui est très, 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 très drôle, c'est que j'ai conservé des vidéos d'elle, notamment sur sa fin de vie, où elle pouvait parler à mes petits-neveux. Moi, je n'avais pas d'enfant. Et aujourd'hui, j'entends ma maman atteindre ces mêmes notes avec mon fils. Et donc, il y a un parallèle que je vois, avec les mêmes mots d'ailleurs, les mêmes intonations. Donc, au-delà de leur ressemblance physique, il y a évidemment une ressemblance dans leur manière de distribuer leur amour, en fait, tout simplement. Voilà.
La voix de ta maman, avec le temps, est en train de rejoindre celle de Najat.
Oui, clairement, c'est exactement ça. Je la vois parler. Et là, en fait, je l'écoute quand elle parle à mon fils et qu'elle s'extasie devant le petit être insolent qu'il est. Est-ce qu'il faut dire ce qu'il est ? Et je retrouve exactement les mêmes mots, les mêmes intonations, la même manière d'agir et d'exprimer son affection. Et je pense que moi, c'est un peu pareil. Je le vois pas, mais je suis persuadé que la manière dont je dis, il y a un mimétisme énorme, en fait, dans notre manière d'exprimer ce qu'on ressent envers ceux qu'on aime, quoi. Et je pense que vis-à-vis peut-être de mon père ou de ma mère, il y aura des similitudes énormes, quoi.
Tu as employé ce terme de manière de distribuer l'amour. C'est quelque chose, ça, qui l'a défini aussi, ou qui est aussi un héritage familial, vu que c'est répercuté aussi par d'autres maintenant, aujourd'hui, après elle.
Oui, chez les Libanais, surtout, peut-être la mama orientale, la mama méditerranéenne, il y a deux manières d'exprimer évidemment son amour. Il y a à travers de la parole, de la gestuelle. Donc, de le prendre dans les bras, de faire des bisous, on est très proche.
Tactile.
Le tactile. Et la deuxième, évidemment, c'est à travers la bouffe. Voilà, c'est une autre manière de témoigner.
On arrive toujours au sujet de la cuisine et des plats merveilleux.
Ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint les deux grand-mères. Mais celle-ci, c'était, je trouve, un peu plus appuyée, peut-être. C'est-à-dire que je garde ce souvenir où j'arrivais au Sénégal pour mes vacances annuelles, l'été. Et la première chose qu'elle pouvait me dire après m'avoir accueilli, m'avoir fait tant de baisers et m'avoir montré sa joie de m'accueillir, c'est « Dis-moi tout ce que tu veux manger, dis-moi tout ce que tu veux que je te fasse durant les 15 jours. » Voilà, voilà. Au début, j'étais comme un ouf. Et après, plus je grandissais, plus j'étais gêné pour elle parce que je ne voulais pas abuser. Et au final, j'abusais tellement c'était extraordinaire. Donc, j'en profitais. Et il faut savoir une chose, c'est qu'au Sénégal, vraiment à Dakar, ma grand-mère était reconnue comme une cuisinière réellement hors pair. J'ai deux anecdotes qui témoignent de cela. Sur son lit de mort à l'hôpital, j'ai ce souvenir un peu triste d'une femme qui arrive quand même à aller la voir parce que les gens se relayaient pour la voir un petit peu et qui lui demande quand même une recette. Au moment et j'ai ce souvenir que mon oncle avait...
Avant qu'elle parte, il fallait extraire la recette pour pas que la recette meure avec elle. Incroyable.
Ouais, vraiment, mon oncle avait vrillé, j'ai ce souvenir-là. Et j'ai une autre anecdote assez folle, c'est que je vais chez un ami en Mauritanie, libanais, et nos familles se connaissent, donc, et sa maman adorable accueille une amie de la famille, et elle vient, elle me dit, mais tu sais que ta grand-mère était très connue au Liban, au Sénégal. Je dis, bah oui, elle me fait, tu sais. Et là, il y a son mari qui me dit, le sorbet de Corosol de ta teta, c'était quelque chose d'unique. Et moi, je ne savais même pas qu'elle faisait des sorbets de Corosol. Et on me dit ça en Mauritanie, chez une personne que je connais à peine et qui vient et que je n'ai jamais vue. Et je me dis, jusqu'à là, ça se transmet. Je trouve ça incroyable, quoi. Donc, je rougissais. Elle était partie depuis 4 années. Et ça se perpétuait. Et encore aujourd'hui, dans ma bouffe, dans ce que je fais à mon fils, on parlera de mon autre grand-mère, mais mes deux grand-mères m'ont transmis notamment ça. C'est la manière dont je traduis mon amour dans mes plats. Et dans ma manière de recevoir des gens, et aussi dans ma manière d'élever, d'un point de vue culinaire, mon fils, quoi, aujourd'hui.
Oui, je t'aime par le plat, par la nourriture, par la cuisine. Oui. Et Est-ce que tu peux nous donner un ou deux plats comme ça de Najat qui restent des fondamentaux là, des, où il y a le plus alors, d'amour
c'est...
dedans.
Alors là là, elle me faisait un faté. Le faté, c'est un plat libanais à base de fromage blanc, mais aussi qui peut être mélangé à d'autres choses. Et elle le faisait avec des aubergines frites, des pignons de pin. Donc ça, c'était extraordinaire. Son shawarma, évidemment, qui était assez unique. Avec celui de mon autre grand-mère qui était aussi, et qui était quand même pas mal, son shawarma. Et il y a des choses qui étaient très, très particulières, c'est qu'elle adorait faire des choses qui n'étaient pas libanaises. Ses crêpes, j'ai ce souvenir de ses crêpes, où elle mettait la moitié de la tablette de beurre. C'est-à-dire que les Bretons, je pense que même eux, ils se disaient, mais elle est complètement tarée. Elle disait, mais c'est ça qui est bon. Donc c'était ça, bon. C'était,
oui, l'excès de beurre en général.
L'excès de beurre. Elle me disait, c'est ça qui est bon, c'est le sucre et le beurre. Et ces sols panés qu'elle faisait. Alors encore une fois, j'ai tellement de plats libanais que ce serait trop facile de vous en dire, mais il y avait des trucs assez originaux. Donc il y avait ces sols panés du Sénégal, incroyable, et évidemment les plats sénégalais qu'elle pouvait faire aussi, qui la distinguaient d'autres mamas libanaises qui ne faisaient pas ça. Donc elle avait une double culture, et sénégalaise et libanaise. Quoi.
C'est vrai que depuis le début de cette conversation, on a le Liban, la France, le Sénégal. Est-ce que tu peux nous resituer aussi l'histoire de Najat ? Comment l'histoire de Najat s'est construite aussi entre ces trois lieux, ou peut-être ces deux lieux d'abord, Sénégal et
lieux,
Liban ?
Ouais. Cette première, c'est deux lieux, alors que l'autre, ça sera trois lieux. Ces deux lieux, elle est née au Sénégal. Ses grands-parents donc, sont libanais, sont nés au Liban, et sont partis vivre au Sénégal pour diverses raisons, à chaque fois qu'il y a eu une diaspora, guerre ou économie, le plus souvent. Et elle est née au Sénégal, elle a grandi au Sénégal, et par la suite, elle a rencontré mon grand-père, tout simplement, qui lui-même, je crois bien, est né au Sénégal, si je ne dis pas de bêtises.
Najat a passé toute sa vie au Sénégal.
Ouais. Elle a passé toute sa vie au Sénégal. Je confirmerai, parce que maintenant, en évoquant cela, je me dis, ses sœurs sont... Il y en a beaucoup qui sont au Liban. Donc, je me renseignerai. Elle a un frère qui est en Côte d'Ivoire. Il y a une diaspora beaucoup en Côte d'Ivoire et au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Mais tu vois, en l'évoquant, je me dis, je vais quand même creuser en me disant, est-ce qu'elle est vraiment née au Sénégal ? Voilà, donc tu vois, il y a encore un mystère, et ton émission me permet de me dire, va plus loin, pépère.
Souvent, venir dans Albertine, que ce soit avant ou après, ça génère aussi quelques recherches.
Mais
ça
clairement,
arrive parfois.
Alors autant, par contre, je suis persuadé, en tout cas, que mon grand-père est né au Sénégal, parce qu'il me raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de son enfance qui se sont passées au Sénégal, notamment avec ses frères et son père, tout ce qu'il a pu me raconter. Voilà. Et donc, elle a grandi, jusqu'à ses... Pour sûr, à 20 ans, elle a rencontré mon... ma mère est née au Sénégal. Donc, pour sûr, elle avait 20 ans au Sénégal. Et voilà. Donc, et par la suite, elle a eu deux enfants, ma mère et mon oncle. Et elle est restée toute sa vie au Sénégal, dans cette maison-là où ma mère est née aussi, où ma mère a grandi, à Dakar, qui est une banlieue de Dakar, en fait. Voilà.
Et toi, pendant ton enfance... toi, tu vivais où et comment ça se passait les visites au Sénégal, à Najat ? Tu étais déjà en France, toi ?
Oui, moi je suis né en France parce que mes parents ont immigré en France, ils avaient 25 ans, 20 et 25 ans, quelque chose comme ça. Donc je suis né au Mans, moi, il n'y a rien de très exotique, hein, clairement, si ce n'est la rillette et encore. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, mes deux grands moments que j'attendais chaque année, c'était juillet-août. Pour voir ma grand-mère, donc c'était parce que et mon grand-père au Sénégal, c'était mes vacances annuelles.
Les deux mois, tu partais là-bas ?
Non, je partais un mois ou 15 jours les voir, mais surtout mes plus beaux moments. Et j'ai un milliard d'anecdotes, vraiment, vraiment. C'est quand je les attendais qu'ils viennent en France en septembre, octobre. Parce que septembre, octobre, il y avait soit des visites médicales pour mon grand-père, ma grand-mère. Soit tout simplement, elle venait passer un peu de temps seule avec ma mère et mon père donc, en France. Et j'adorais ces moments-là parce qu'il se passait mille et une choses et parce que j'adorais dormir avec elle à ce moment-là. J'étais tout petit. Dormir à côté d'elle, je rentrais les soirs, je savais que j'allais lui parler et je savais que c'était un temps qui était à part durant mon année scolaire. Vraiment. Qui avait une connotation différente des goûts différents, une odeur différente, des visions, les gens qu'on allait côtoyer durant ce moment-là, ça allait être différent. C'était vraiment une accalmie dans mon année qu'allait être après assez banale. Hein.
Ouais, c'était l'anti-routine. Quoi. Exactement. Les grands-parents étaient là et il se passait des choses différentes. Ouais.
Mais des choses différentes, mais que je savais qu'elle allait être pareille. Mon grand-père, je savais qu'il allait son délire de nous acheter des pains au chocolat. Je sais pas, ces paquets de dizaines, quinzaines de pains au chocolat, je savais qu'on allait accueillir énormément de gens qui allaient vouloir les voir. Donc de France, qui venaient donc chez nous pendant ce temps-là. Voilà, j'avais ça. Et parfois, dans l'année, je pouvais aussi, j'ai ce souvenir-là en cinquième, que j'avais été les voir. Je partais avec ma maman seule, nous deux, et que c'était encore une fois une parenthèse dans mon année d'aller les voir au Sénégal. C'est incroyable ça. Et donc, mon fils qui a triple, hein, il est français, donc par où il est né, par comment il va être éduqué aussi en France, mais il est libanais et marocain, il aura ça. J'ai l'impression que sa grand-mère qui habite au Maroc, eh ben, il va aller la voir très souvent, et j'ai envie qu'il goûte à ces choses-là. Et que pareil, quand elle va venir en France, qu'il ressente que c'est une parenthèse pour lui et qu'il a énormément de chance de pouvoir la côtoyer et qu'elle lui transmette autant d'amour. Parce que chez sa grand-mère, donc maternelle, je ressens aussi un amour infini. Quoi. Et qu'il regoute ça aussi.
Ouais, ça, c'est l'espace grand-maternel. Quoi. Un amour puissant et puis libéré aussi, peut-être des contraintes éducatives. Et
exactement.
Un espace où tout est possible.
Ouais. Exactement. Ouais, je suis d'accord.
Avec peut-être des excès, mais ça fait partie aussi.
Oui, et qu'on tolère, on doit tolérer.
Donc de l'autre côté de la famille, du côté paternel, il y a une autre Teta, c'est Juliette. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Juliette ?
Teta, si Teta Najat, c'était quelqu'un de très 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 particulier, très connu et reconnu pour son action aussi associative auprès des personnes très pauvres aussi au Sénégal. Je ne l'ai pas noté. Elle avait une association caritative.
Najat,
exactement. Là, si on doit évoquer ma grand-mère paternelle, Teta, c'était un emblème. C'était un emblème parce que c'était la dernière, depuis des années, d'une fratrie dont les oncles, les cousins, les petits-enfants étaient encore vivants. Donc, elle venait donc du Liban. Elle a grandi au Liban, à Al-Taba, qui est un petit village en montagne. Ensuite, elle a rencontré mon grand-père. Ils ont émigré au Sénégal, ensuite pour des raisons économiques. Par la suite, mon grand-père, qui était couturier, sa sœur lui a dit « Écoute, nous, on a émigré en Argentine, c'est pas mal, viens !» Ma grand-mère, avec ses enfants, dont mon papa, est parti vivre en Argentine.
Au bout de quelques années au Sénégal, ils sont partis en Argentine.
Exactement. Sauf que ça a duré trois, quatre mois, avant qu'ils ne reviennent au Sénégal pour diverses raisons. Ils n'arrivaient pas du tout à s'acclimater là-bas. Et donc, une fois que mon oncle, mon grand-oncle, a fait ses études de médecine et dentaire et est parti en France, il a dit à mon père, bah, viens avec moi, machin. Mon papa est parti en France et à un moment a dit à ma grand-mère, viens vivre en France avec mon papa. Donc, voilà, donc mon grand-père et ma grand-mère sont venus vivre en France dans les débuts des années 80, quelque chose comme ça. Avec mon oncle, mon petit oncle, le dernier de la fratrie. Et donc, elle aura vécu au Liban, au Sénégal, Argentine-Sénégal, pour finir au Liban dans les 45 dernières années, 46 dernières années de sa vie.
En France.
En France, ouais. Pardon. Finir en France, avenue Bollé, au Mans, dans cet appartement qu'elle n'a jamais quitté jusqu'à il y a 3 mois. Ça, c'est extraordinaire. Jusqu'à il y a 3 mois. Et donc, c'était un personnage unique, mais vraiment unique par tellement, tellement, tellement d'aspects. Mais si je dois en garder certains, c'était sa capacité à... Elle était illettrée. Elle ne savait pas lire, ne savait pas écrire, mais c'était la plus grande débrouillarde du monde. C'est-à-dire qu'elle avait des stratagèmes pour pouvoir tout simplement s'orienter, pour pouvoir lire des recettes, pour pouvoir se débrouiller. Elle avait toujours... C'était la démerde, évidemment. Elle parlait jeune. Elle voulait rester jeune jusqu'à 100 ans. Elle te disait, je suis jeune, mais moi, regarde, je ne suis pas comme les vieux à ne pas prendre soin de moi, pas sentir bon, machin. Elle me disait, je m'apprête bien, je suis bien. Elle avait toute sa tête hein, jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Et elle nous parlait à nous, les jeunes, à tous les cousins de notre famille, là, avec des mots et une attitude qui parfois pouvaient être beaucoup plus intéressantes que d'autres attitudes d'autres personnes qui pouvaient se sentir plus légitimes à nous parler d'amour. Évidemment, le nombre de fois où elle m'a parlé de faire attention, de sexualité même, pour nous parler comme ça.
Il n'y avait pas de sujet
pas tabou.
Il y avait un partage, une communication.
Exactement, et pourtant elle était hyper pieuse. Hein. Elle pouvait nous engueuler si on ne faisait pas nos signes de croix en arrivant chez elle, si on n'allait plus à la messe. Elle se lamentait de malheureusement la perte de foi de la jeunesse aujourd'hui. Elle nous expliquait, mais en même temps, elle pouvait dire, bon, c'est comme ça, voilà. Tu veux pas, bon, voilà, mais quand même. Et là où je voulais en venir, pardon, c'est qu'il y avait une chose qui était assez très spéciale chez ma grand-mère, c'est que mes cousins aussi, mon frère, je sais que mon moyen frère, on avait pour volonté de présenter nos petites copines à ma grand-mère avant nos parents. Ça a importé énormément. Et la maman de mon fils, je l'ai présentée. C'était la première personne à qui j'ai présenté, c'était ma grand-mère. Et c'était un coup de foudre parce que marocaine, elle a pu parler en arabe avec elle. Donc ma grand-mère, ça l'a touchée. Ils ont vu des séries libanaises ensemble. Voilà. Et donc c'était un moment particulier et elle est unique dans ce sens où elle est restée jeune jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était le lieu de rencontre, sa maison, c'est ça aussi qu'il fallait dire, c'est que j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai récupéré beaucoup de photos d'elle, de sa maison, et je remarque en fait que c'était un point de passage central, mais vraiment, tous les premiers de l'an, ses trois enfants, mon père et mes oncles, se retrouvaient chez elle pour manger le kibbeh naïe chez elle. C'est elle qui le préparait. J'ai une vidéo là, elle avait 96 ans, c'est elle qui le prépare dans la cuisine. Encore, on se retrouvait tous.
C'était un point de passage. Une personne et un lieu qui fédérait, quoi. À fédérer la famille.
Moi, je faisais mes remplats au Mans de pharmacie, où je pouvais bosser pour X raisons au Mans, dans la ZIC. Je dormais chez elle, je mangeais chez elle. Avec mon oncle, on rentrait tous les soirs, on mangeait chez elle. C'était le rituel, quoi. Elle avait 90 ans, elle nous attendait, on devait la voir. C'est incroyable, vraiment. L'énergie qu'elle avait, c'était fou, fou, fou. Voilà, elle a perdu son mari, je pense qu'elle avait 70 ans. Et elle a vécu 30 ans encore après. Je me dis, elle a vécu une vie après. C'est incroyable, incroyable.
Et dans ces conditions, pardon pour l'âpreté de la question, mais est-ce qu'on la croit immortelle ?
Oui. Oui, je crois que mon cousin, ça a été sa première phrase quand elle est décédée. C'est pas possible. Moi, j'ai ce souvenir de mon frère qui était totalement triste, vraiment, vraiment effondré. Je me disais, mais merde, qu'est-ce qui se passe en Noël 2011, ouais, c'est ça, 2011, parce qu'il la voyait apathique dans le fauteuil, parlant pas trop. Il me disait, c'est fini, elle va partir, je la vois, elle est fatiguée, machin. Je lui dis, non, elle est peut-être fatiguée, mais à un moment, quoi. C'était il y a 15 ans. Et entre-temps, il s'est passé un milliard de choses. Et dynamique, hein. C'est elle qui a porté.
Oui, quand il y a des coups de main bien et qu'elle se remet, qu'elle repart, on se dit, mais voilà, c'est éternel.
C'est éternel, et c'est surtout que c'était pas juste éternel, c'est qu'elle avait un dynamisme. J'ai des anecdotes sur elle bougeait des meubles toute seule chez elle, à 90 piges. On est arrivé chez elle, on fait, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle fait, j'ai voulu changer la décoration, machin. Elle fait, mais c'est hyper lourd, même moi je peux pas, en fait, quoi. Donc non, elle avait de l'énergie, et c'est elle qui a soutenu. Moi j'ai une photo que je garde dans mon portable de ma grand-mère, celle-ci, qui a peut-être 20 ans de plus que mon autre grand-mère, et qui, lorsque Najat était malade, qui avait un cancer, qui était venu en France, c'est elle qui l'a couvrée, c'est elle qui l'a portée, c'est elle qui l'a tenue, c'est elle qui faisait des blagues pour « Allez, on va de l'avant ». À sa manière, elle avait une force pour essayer de la tenir vivante et la garder avec nous, quoi. C'était incroyable. Ces moments-là étaient incroyables.
Elle s'entendait bien, les deux grand-mères.
Elle s'adorait parce que
cette liaison-là, elle est magnifique aussi quand les deux parties de la famille se relient et il y a un lien fort entre les
Exactement.
Deux grand-père, grand-mère, grands-parents.
Je suis d'accord. Et en fait, là où c'est encore plus fou, c'est qu'en fait, au Sénégal, la diaspora libanaise, c'était comme une grande famille. C'est-à-dire qu'elle se connaissait presque avant que nos parents se rencontrent, que le frère de mon papa est le meilleur ami du frère de ma maman. Donc en fait, les liens étaient fous entre la famille Sfer et la famille Rad. Et en fait, c'était presque des sœurs, mais voilà. Et je me souviens que ma grand-mère maternelle, Najat, disait toujours à ma mère, écoute-la. C'est très important que tu l'écoutes, ce qu'elle a à te dire. Peu importe, mais écoute-la. Voilà.
Tu parlais de photos, de cette photo que tu as dans ton téléphone, d'autres photos ou d'objets. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui qui compte pour toi et qui les rend présentes? Beaucoup de choses, j'imagine.
Ouais, non, mais tu as raison, mais des ustensiles de cuisine. Tu vois, j'ai un couteau chez moi. J'ai un couteau de ma grand-mère où je mangeais chez elle. Mais en fait, ce couteau, c'est un couteau banal. Et quand je dis un couteau banal, c'est peut-être un couteau de Auchan ou du Super U. Mais avec ce début blanc, parlons où on le tient, qui est blanc, et ce fait qu'il soit toujours hyper coupant, je sais que c'est le couteau de chez ma grand-mère qu'on utilisait quand on mangeait chez elle. Et il me rappelle chez elle, quand on mangeait chez elle. C'est con. Et en fait, quand on a vidé son appartement, je lui ai dit, j'aimerais bien prendre certains couteaux, certains couverts. Et je sais qu'à chaque fois que je prends ce couteau dans les mains, je me dis, mais merde, c'est le couteau avec lequel je coupais la tomate et que je mettais l'huile d'olive chez Teta.
Et elle l'a tellement touché aussi.
Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, tu vois, c'est con. Hein. Je pourrais te dire tellement de choses, mais un couteau, ce qu'il y a de plus banal, je garde ça de Teta Juliette. C'est incroyable, incroyable. Et ma grand-mère, peut-être maternelle, j'ai ce sac, je crois qu'elle avait cousu pour moi quand j'étais petit. J'ai ce sac qui est transmis à mon fils. C'est le même sac dans lequel ma maman mettait les couches, les machins. Il est intact. Il est intact. Alors des sacs qu'on achète aujourd'hui en 2-2, ils sont dégueulasses. Il est resté intact. Pas de couture qui a pété ou quoi que ce soit. Mais évidemment, je suis con, mais j'ai mon bracelet. J'ai mon bracelet que ma grand-mère Najat m'avait offert à mon retour de classe d'hiver de 6e et que j'ai gardé, que je porte encore aujourd'hui. Alors là, je l'ai enlevé parce que quand je fais de la guitare, j'enlève et je sais où je le pose. Je ne l'ai pas mis pour venir ici. Mais mon bracelet que je porte tout le temps, qui est un bracelet sénégalais et que je montre à chaque personne que je peux servir au comptoir parce qu'ils peuvent avoir le même que moi, c'est mon bracelet de Najat, ça. Et c'est quelque chose qui m'identifie auprès des personnes qui me connaissent. J'ai un bracelet sénégalais qui n'est pas un truc énorme, hein. Un bracelet en argent, mais que je porte depuis que la 6e. Voilà.
On parle du Liban et du Sénégal. Donc, toi, tes déplacements, c'était plus au Sénégal. Le Liban, c'est pas. Du coup, il n'y avait pas forcément de famille qui allait là-bas. C'est pas un pays que tu as visité ou tu es allé quand tu étais jeune.
J'y suis allé une fois en 96. Je me souviens qu'il y avait les JO d'Atlanta à ce moment-là. Mon père a voulu nous présenter le Liban. Et ensuite, c'est très bizarre, mais quand ma grand-mère est décédée, on a eu un point de chute au Liban pour y vivre. Elle est décédée en 2016, donc.
Najat
est décédée en 2016, pardon. Donc, il y avait moins, peut-être, il y avait mon grand-père encore au Sénégal, mais peut-être qu'il y avait moins de facilité à y aller. Et en fait, on s'est tourné vers le Liban. Et en fait, on y allait tous les ans, parce que j'ai énormément de famille au Liban. Mais j'y allais avant tout pour voir mon grand-père et ma grand-mère, et pour voir mon oncle aussi. Et là, en fait, on a été au Liban. Donc, j'y suis allé 5-6 fois depuis 10 ans au Liban. Sauf que depuis 2020-21, j'y suis plus retourné depuis certains événements. Et là, mes parents, ils vont tous les ans dans notre appartement au Liban. Et là, en début d'année, là, il y a un ou deux mois, j'ai dit, je veux y retourner. Là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Ça me manque. Et le Liban, c'est, comme je dis dans le morceau libanais, c'est chez moi à travers le fait que je me ressens physiquement et à travers l'accueil, comme si c'était chez moi, comme si j'ai toujours vécu là-bas, quoi.
Regardez ce clip libanais. Julien, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de mettre un terme à cette conversation grand-maternelle. Merci beaucoup d'être venu rendre visite à Albertine.
C'était génial. Je crois que j'aurais pu faire 3 heures comme ça. C'est trop bien. Merci pour ton émission. Merci pour ton invitation. C'était un très bon moment et je vais me renseigner. Je vais me renseigner sur ma grand-mère où elle est née.
C'est vrai qu'on aurait pu faire 4 épisodes aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte avec un texte choisi et lu par notre invité Julien Sfer.
C'est une citation, tout simplement, qui dit « Les grands-mères répandent sur l'enfance une lumière douce que le temps n'efface pas. » Mais je trouve ça tellement juste.
Est-ce que tu peux nous le répéter ?
Oui. Les grands-mères répandent sur l'enfance une lumière douce que le temps n'efface pas et que le temps n'effacera pas, clairement. Voilà, je pense que durant toute notre vie.